Chapitre 2. Les heures effacent les heures, et leurs meurtrissures sont comme ces duvets que les papillons laissent à nos doigts en s'échappant, les ailes ternies. Chaque minute nouvelle en fait voler un peu. Tandis qu'ils descendaient la rue du lycée avec l'allure raide des gens qu'une émotion étreint, se rappelait-il seulement la visite de cette cousine venue de Bellepêche, ce rire un peu sot qui avait si bien découronné ses rêves. Rien que 3 jours depuis lors, si peu pour les heureux, un siècle pour lui tant il s'était traîné dans les angoisses. Ah, ces séances d'attente à la faculté avant l'ouverture des salles de composition, l'anxiété dont son cœur était gonflé, tandis que d'une voix brève et sèche, un professeur avait dicté les problèmes. Des oreilles bourdonnantes, les tempes serrées, il avait cru d'abord être aveuglé par la vision de sa feuille de brouillon rouge. Toute sa tête était broyée dans un étau, lui écrasant les idées, et une envie de fuir l'avait pris, lui ôtant la conscience de lui-même. Ainsi la folie du soldat qui, tout à coup, pour une détonation entendue, jette le fusil et fait sauf qui peut. Et le soir encore, cela l'avait repris devant la version de Sénèque distribuée. En examinant le texte dont l'encre violette s'étalait, il pensa ne plus savoir lire et son courage n'avait tenu qu'à une futilité d'enfant. 2 mots inattendus, trouvés dans le lexique, et qui avait été l'apparente excitation de la Providence à laquelle il croyait toute son âme. Enfin, il avait remis sa copie, une copie d'écriture cahotante, tremblée, et en sortant de cette atmosphère surchauffée, il s'était senti tout à coup brisé, comme après quelques-unes de ces poursuites échevelées qui réveillent dans les cauchemars. S'il avait pu seulement savoir tout de suite le résultat, ce oui ou ce non dont sa vie semblait dépendre. Mais non, un dimanche, le lendemain, 24 heures ajoutées à son supplice, 24 heures vides, sans rien pour les combler. Plusieurs fois, il eut l'idée d'aller chez M. Mouillac, avec ses griffonnages d'équations rapportées aux logis, et devant lesquels, durant des heures, il se plongeait dans une rêverie. Et à chaque coup, la crainte bête d'une réponse mauvaise le clouait au sol. C'était en lui le même effroi qui, l'autre jour, avait fait fuir M. Mouillac à l'arrivée du train. La volonté de l'espérance à tout prix, des illusions désespérées. Les heures effacent les heures. Du même coup régulier et lent, le dimanche avait passé. Ainsi, lorsqu'une pierre tombe sur une surface d'eau, grosses ou petites, les rides se forment et fuient avec la même vitesse, les unes alors très loin, d'autres mourant à leur naissance. Aujourd'hui, il allait enfin savoir, rien qu'à cette idée, il se sentait étourdi, ivre. Au bout de la rue, une porte basse. Puis derrière, dans la cour de la faculté, une mêlée de mouchetures noires, des groupes de gens redingotes, les unes longues, amples, vieillottes, les autres courtes, serrées outre mesure. Tous l'air de collégiens, lycéens, en tunique ou avec des képis éculés. Et au travers seulement, quelques vieux à mine respectable, professeurs ou parents épiant d'un air inquiet. Et tout à coup, sans raison, des poussées subites vers un couloir étroit et béant se faisaient dans cette cohue. Des cris alors s'échappaient comme dans une cour de récréation. « Rien ! Des fumistes ! Oh, la tangente !» D'autres fois, l'angoisse des cœurs, se masquant d'une féroce gouaillerie, se déversait en blagues méchantes et toutes les variétés d'élèves se trouvaient là. Celui-ci, vêtements usés, cirés, bûcheur de profession, que talonne la misère ou que hante la volonté d'être un monsieur. Les rêveurs de fortune, d'autres mis en gravure et gantés, qui fumaient dédaigneux et très rassurés d'un succès. Ceci les potaches que l'emprisonnement sans serre ni lumière a fait hargneux. Et les insouciants qui ne se tourmentent point pour si peu, oh, à quoi bon? Et les gens venus de très loin essayaient d'une faculté de rechange, espérant dans l'incognito de leurs bêtises, mais, malgré la jeunesse, malgré le soleil qui mettait des jets d'or rouge le long des piliers lourds des Jacobins, malgré la moiteur douce de l'air et l'enchantement de ce matin d'été, un silence planait. Les éclats de voix semblant étouffés par une attente, ce recueillement d'instinct qui saisit à l'approche du danger et fait que tout s'assombrit. Stéphane, intimidé, ralentissait le pas, épiant les groupes comme s'il eût craint d'y lire sa condamnation. Point de camarades pour le reconnaître, ni d'amis. On le regardait avec des sourires tant il semblait hésitant. Sous les coups d'œil ironiques pesant sur lui, un afflux de sang lui montait au visage et il se tournait brusquement pour qu'on ne le vît plus. Un instant, pourtant, il eut un mouvement de joie. Là-bas, dans un angle de muraille, il crut reconnaître la silhouette de M. Mouillac. Alors il s'approcha, fendant les groupes avec une audace dont il ne se serait jamais cru capable. Ce n'était point le professeur. Et dans cette déception, il vit tout de suite un mauvais présage. Le petit homme lui avait tant dit qu'il serait là pour l'aider et écouter à sa place la liste d'admissibles que depuis 3 jours il y comptait. Il resta immobile en cet endroit où sa méprise l'avait surpris, essayant de ne songer à rien. Dans ce tumulte perpétuel d'êtres s'agitant dans la cour, une impression de solitude l'étreignait. Jamais la foule ne l'avait fait si isolé. Justement, les professeurs étaient en retard, peut-être à cause des candidats douteux. Des réflexions s'échangeaient, fanfaronnades où perçait le doute. « Trop calées, les copies, on n'a pas pu corriger. » Pour Jacobin, les coups de 10 heures retentissent, c'est avec un battement de glas. D'un geste instinctif, tous, pour tuer l'attente, tirèrent leur montre du gousset, la réglant. « Mais une demi-heure que ça devrait être fait !»« Mais qu'est-ce qu'ils ont donc, ces satanés profs ?» L'anxiété devint aiguë. Le silence s'abattait sur les groupes. On entendait des soupirs poussés, les épaules se levaient avec une expression douloureuse, et des bâillements nerveux prenaient les uns après les autres par contagion. Même quand un employé passait, il n'y avait plus de lanzi ni de fausses alertes données très haut, et seulement ce bruit de pas résonnait en chacun, et tout à coup, pour les bûcheurs, pour les risque-tout, les timides, cet examen, si bête de sujet et de résultat, prenait des proportions formidables. L'importance d'un grand acte de vie, presque l'égal d'un coup de dé, nous dépendrait la fortune. Soudain, quelqu'un vit ouvrir au fond du couloir la porte d'une salle d'examen. « Ça y est !» dit-il. Il n'y eut alors aucun cri, aucune parole, mais une poussée silencieuse et un écrasement dans la baie trop étroite. Personne n'éprouvait de souffrance à être ainsi étouffé. Les poitrines ne respiraient plus, poignées d'angoisse, mais des sourires blêmis restaient pendus aux lèvres. Autour de Stéphane se vit un vide brusque. Il semblait que le grouillement eût été aspiré, bu par ce couloir sombre, au-dessus duquel une inscription rayonnait en lettres d'or, « Salle D, Faculté des sciences ». Il voulut suivre d'abord, comme attiré par un aimant, puis il s'arrêta au seuil, regardant les autres s'engouffrer et disparaître. Il se sentait d'avance refusé. Ne voulait pas donner en spectacle son désespoir. Tout à l'heure seulement, quand ce serait terminé et que personne ne serait plus autour de la feuille affichée, il irait la regarder en indifférent, s'assurer d'un coup d'œil que c'était fini, tout à fait fini, Et rien que cette idée le remuait, lui mettait des sanglots dans la gorge, ainsi que la pensée du retour auprès de sa mère, quand il faudrait avouer son impuissance et l'inutilité des efforts d'une année entière. « Vous attendez aussi quelqu'un ?» fit devant lui un monsieur à moustache cirée, portant rosette à l'habit, ayant tout l'extérieur d'un soldat, basané par la vie en plein air et les rudesses de la caserne. Stéphane eut un mouvement de surprise en s'entendant interpeller. « Oh non, 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 je passe, moi. Ah oh. !» Le vieux le regarda, les yeux mouillés, avec cet air vague des gens âgés que l'émotion secoue. « Ben mon fils est plus avancé que vous, lui. Il a été le faire voir là-bas, le pauvre diable. Moi, vous comprenez, j'aime pas être bousculé. Ça fait rien, oh, s'il était reçu. » Et sans débrider, comme s'il eût toujours connu Stéphane, il continua, mettant des phrases les unes au bout des autres pour tromper l'attente. Par instants, coulant des regards peureux du côté de cette bagarre où il n'avait pas osé risquer ses rhumatismes. Son fils s'appelait Casimir. Il fallait qu'il fût reçu. Sans quoi, pas de volontariat possible. Ce n'était pas que 5 années de service puissent l'effrayer, mais il y avait des raisons qui, que... Une clameur l'interrompit. La masse noire ressortait avec des oscillations lentes et un balancement d'homme ivre. Après l'émotion de la peur, les langues s'étaient déliées à nouveau. Les unes exubérantes, d'autres avec des cris de colère, des protestations d'injustice. Certains, très entourés, parlaient avec des gestes saccadés. Ce va-et-vient de mains qui semblait vouloir couper l'air, et à travers la confusion des discussions, une humeur sourde s'élevait, des appels qui brusquement firent tressaillir Stéphane. « Monsieur Deschantres ! Monsieur Deschantres ! » Et des faussaires reprirent « Deschantres, oh oui, Deschantres !» Lui, on l'appelait. Il tourna brusquement le dos au vieux stupéfait. « C'est moi, Deschantres » fit-il d'une voix étranglée par l'émotion. « Mais va donc !» cria un potage. « Tu passes le premier avec un dé parbleu. Oh, et tu y mets cet idiot-là » Alors il prit sa course d'un bond jusqu'à la salle d'examen, sentant le sol se dérober sous lui, toutes les choses danser le long des murs. Admissible, oh non, non, c'était peut-être une farce, une invention méchante pour se moquer de lui, parce qu'il n'avait pas suivi les autres. Mais d'un temps, il s'entendit encore appeler. Le jury tempêtait parce qu'on le faisait attendre. « Monsieur Deschantes, monsieur Deschantes !»« Mais c'est moi !» s'écria-t-il, courant vers le tableau noir qui, au fond, mettait une grande tache crue sur la muraille. Tout de suite, il prit la craie, le torchon, puis il attendit. Et tandis que dans son fauteuil, le professeur, un jeune faisant du zèle, cherchait une question difficile, il resta pétrifié de bonheur, ayant le sentiment vague que quelque chose d'inouï lui était arrivé et que sa chance avait tourné. « Pourriez-vous, monsieur, me trouver le maximum de l'expression suivante, 27x2 moins 5x moins 12 ?» À dater de cela, il imagina qu'il ne vivait plus. C'était un autre qui parlait en lui, un autre qui discutait avec une incroyable assurance, raisonnant, tenant tête aux objections. Ironie du sort et des examens. Ce bûcheur, tant de fois buté, ce niais dont avait si bien ri, que M. Mougac jurait un incapable, passait brillamment comme un fort. À propos de géométrie, on parla de limites. Justement, il avait passé des heures avec M. Mougac à épiloguer sur ce sujet, ne pouvant se convaincre qu'un cercle pût être considéré comme une ellipse ou un polygone, qu'on nomma une courbe droite, polyèdre un cylindre. Des expressions à demi comprises où on était resté, des idées neuves de son professeur, qu'il exprima à la stupéfaction de l'examinateur Pamédès. L'heure était passée, il fallut se presser, renoncer à le pousser à fond. Il fut complimenté, puis on continua en hâte. Deux questions de physique, K1, K1, de la chimie, du latin. Au moment seulement de répondre sur l'histoire, il sortit de l'enivrement de bataille qu'il avait soutenu. Son audace croula. Il fut pris de panique et comme on lui demandait « En quelle année, monsieur, l'émancipation des États-Unis ?» Il balbutia « En 1648 !» On crut à une distraction. Ben, « Vous savez bien que c'est un peu avant la Révolution française. »« Oui, parfaitement. » Il était devenu si pâle que le professeur en eut pitié. « Je vous remercie, monsieur. » Alors, Stéphane eut un geste d'angoisse. « Est-ce que je peux espérer ?» Parbleu, avec un 5 de mathématiques, il se leva, sortit de la salle comme un automate, étouffant à force de joie éperdue, croyant un rêve bienheureux, ayant peur d'être heurté, de se relever dans la réalité douloureuse. « Reçu !» Ah, non, jamais il n'aurait pensé cela. « Reçu !» Il en voyait bleu, rouge, et ne distinguait rien, ni la cour de nouveau grouillante d'élèves, ni le vieux militaire se faisant expliquer au long pour quelle faute Casimir avait été refusé, ni les Jacobins dressant leurs murs de briques comme un voile sanglant troué de baignoire, ni le soleil, ni les passants. Il ne voyait rien, rien que cette chose impossible, inexprimable, féerique, reçu, il était reçu. Et tout à coup, arrivé au dehors, avant même d'aller chez sa mère, bien que la maison fût à deux pas, il se sentit entraîné vers la rue du Vieux Raisin, emporté par un besoin d'aller confier son extase à celui dont elle était l'œuvre patiente, caressée durant des mois en dépit des désespérances et des pronostics sombres. Il prit sa course, une course de gamin qui le trempait de sueur. Ah, le léger fardeau que le bonheur! Jamais il ne l'avait encore connu, et voilà qu'au détour de sa vie, si terne, si lasse, il y était plongé brusquement. Désormais, son existence serait dans un rayonnement, comme si ce parchemin conquis eût été un bouclier contre les souffrances à venir. Et en route, il s'étonnait. Quoi, ce n'était que cela? Il était si facile d'être heureux? Désormais, il croirait à la chance. Plus du démorne, plus de chagrin. Au-dedans comme au-dehors, du soleil, toujours du soleil. Il monta très vite l'escalier et sonna nerveusement. Personne ne répondit. Mon Dieu, si par hasard M. Mouillac était sorti! Ce fut un voile jeté sur son exubérance de félicité. Le cœur battant, il sonne encore une fois, deux fois. Derrière la porte, la clochette tintait avec un son plaintif, sans résonance. Oh, brusquement, un grand chagrin saisit Stéphane. Il resta là un instant, attendant encore. Puis, avec une lenteur déçue, marche à marche, il descendit et arrivait dans la rue, regardant encore la maison. Là-haut, les volets étaient clos, étalant sous la lumière leurs planches décolorées. On eût dit qu'une mort avait eu lieu derrière et qu'on s'était sauvé de ce logis par frayeur de la contagion. Comme il s'absorbait dans sa contemplation, une femme qui rentrait dit tout à coup derrière lui « Vous cherchez Monsieur Mouillac, pas vrai, monsieur ?»« Oui ?» Ah, bien, ben depuis samedi, il est parti pour Belle-Pêche. Merci, fit-il. Et se retournant, tout d'une pièce, il reprit gravement le chemin de son logis. Brusquement, son affolement était tombé. Maintenant, le grand événement de tout à l'heure, rêve de son âme depuis un an, reprenait des dimensions ordinaires, lui paraissant presque une futilité. Il avait ressaisi machinalement son allure méthodique, et en suivant cette route tant de fois parcourue, il lui semblait que rien de neuf ne s'était passé depuis la veille. Même il avait si bien son air de calme habituel, qu'en le voyant entrer, Madame Deschantres se dressa de tout en point d'une mauvaise nouvelle. « Eh bien » s'écria-t-elle. Il répondit simplement, « Je suis reçu, ma mère. » Alors elle l'embrassa. « Mais tu as eu de la chance, » dit-elle, en lui montrant une lettre décachetée, et elle ajouta, « Eh bien, pour te récompenser, nous partirons demain. J'ai reçu un mot. L'affaire de Vic est arrangée. » Il baissa la tête et répondit, « Je serai bien content si vous allez mieux là-bas. » Et ce fut là toute cette joie tant espérée par lui. Une parole sèche, un baiser mis sur son front avec si peu de tendresse qu'il semblait adressé à quelque autre très loin. Monsieur Bouillac par lui-même parti sans un mot d'adresse ni d'amitié. Soudain, sa maison, sa mère, l'idée d'abandonner pour l'inconnu la quiétude de chaque jour, lui donnèrent un grand frisson de froid. Et tristement, il regrettait de n'être plus dans la cour des sciences, à écouter les doléances du vieux, les tortures de l'angoisse lui ayant semblé plus douces que le bonheur de la réception, tant nos bonheurs sont frêles. Depuis une heure, la voiture roulait. Une calèche dégénérée en guimbarde qui, au cahotement, faisait une sonnerie de ferraille et craquait dans toute sa charpente. Derrière la capote, sur un tablier, les mâles étaient hissés, retenus par des cordes, et chaque fois que le trot de la bête s'accélérait sous un vigoureux « Udia !», elles avaient un grésillement inconnu comme si on eût voulu les arracher. Madame Deschamps restait immobile. À côté d'elle, Stéphane regardait, étonné par les arbres, la terre, toutes ces choses jamais vues encore dans la libre poussée de la nature. Devant eux, la route bordée d'ormes à l'écorce jaune fuyait à perte de vue entre deux lignes de collines rouges, et par instants un air coupant leur venait tiède d'arômes brûlant les poumons à force d'être sains. Alors ils aspiraient violemment, éprouvant une sensation délicieuse, tandis que le conducteur, un demi-paysan à blouse dont le bleu avait passé dans les coulées de lessive, se redressait sous le fouet de ses passagers de bise et retourné du côté de la voiture, disait entre deux bouffées de pipe « Il y aura du vent d'autant que oui, à Saint-Cernin !» Depuis leur départ de Villefranche, le paysage n'avait pas changé. Toujours la même allée d'arbres s'allongeant devant eux, les mêmes collines rondes chauffant leurs croupes au soleil, presque pas de verdure ou simplement des tiges terreuses de genêts défleuries. Aux angles de la vallée, des villages à murs de tuiles jetés au centre de vignobles dégarnis, dont les souches noires semblaient tordues par une douleur. Quand on arrivait devant un, le vieux de son siège regardait avec mélancolie les ronces poussées au travers des ceps morts, puis par un involontaire besoin de s'en sauver, répétait à tue-tête « Udia !» en tapant sur la bête. Depuis le matin, Stéphane et sa mère étaient silencieux. Pendant le trajet de Toulouse à Villefranche, Madame Deschantres avait paru préoccupée, et lui s'était laissé bercer par le roulis du wagon, ne regardant même pas aux vitres de la portière le pays qui semblait fuir à tire-d'aile. Et maintenant encore, sa lassitude durait. Il ne songeait plus au reste à son succès de la veille, tout entier à une crainte inexplicable de ce séjour à Vic où il se rendait. Cette impression lui était venue à travers les fracas d'une demi-déménagement auquel il avait pu procéder seul, Madame Deschantres craignant de se fatiguer. Il y a ainsi chez l'homme des presciences, des antipathies d'instinct à l'égard des choses comme à l'égard des êtres. En triant les objets, il s'était alors surpris en garder dans la main les regardant comme s'il n'eût jamais dû les revoir. Peut-être parce que, plus qu'un autre, il était devenu un être d'habitude et craignait le nouveau, ou peut-être seulement par extrême fatigue. Maintenant, à mesure que la voiture roulait, il désirait qu'on n'arrivât jamais. Il sembla que Madame Deschamps comprît sa pensée, car elle demanda tout à coup d'une voix brève: « En avons-nous encore pour longtemps ?»«
Une petite demi-heure, ma fille, par rapport à la montée. »
Une demi-heure de campagnard, deux de grandes villes. Elle eut un geste d'impatience et interrogea encore le vieux. « Mais passerons-nous devant la maison du docteur Ferramus ?»«
Ouais, un peu avant Bellepêche. »
« Merci, » fit-elle, et se retournant vers Stéphane, elle ajouta: « Bien, nous verrons ta cousine, cela coupera notre fatigue, j'ai les jambes brisées. » C'était vrai, il allait la revoir. Depuis l'autre jour, il n'y avait plus pensé. Même son image s'était effacée de son esprit, et quand il cherchait à la retrouver, il n'arrivait plus à en évoquer les traits, gardant seulement un souvenir vague de sa tournure paysanne et de ses accents âpres quand elle avait marchandé le parapluie.
« Eudia !» cria l'homme sur le devant.
À chaque cri ainsi jeté, il y avait une reprise des sonnailles. Le soleil tombait dru à travers les feuillages d'orme, mettant sur la poussière des cercles jaunes qui tremblotaient. Le long des haies, courant entre les pièces de labour, on entendait des chants d'oiseaux, des pépiments ravis de moineaux en goguette. Parfois, on passait à côté de grands fourrés de peupliers grésillant sous le vent et réunis dans un coin de fossé comme des jaboteurs de village. Au-dessous d'eux, une ombre violette rafraîchissait l'œil, tombant doucement. Et cela donnait envie de s'y reposer dans la mollesse enamourée de cette journée d'été. Peu à peu, après ces accidents vulgaires, son aspect de culture épuisé et monotone, le paysage prenait Stéphane. Il éprouvait la sensation d'un renouveau de vie, la joie de l'espace immense jeté devant lui. Soudain, l'homme sur le siège montra du bras une muraille d'église perdue sur un sommet vers la droite.
« Ben voilà Saint-Cerdin. Quand nous serons là-haut, on verra Bellepêche. » « C'est au bas de l'autre côté, mais dame, oh, il y a du vent aujourd'hui, il y a déjà 8 jours d'autant, et pas de pluie tout de même, enfin, c'est comme ça. »
Alors on quitta la grande route pour un chemin sans ombre qui grimpait entre des séries de tranchées sablonneuses, et la montée devenant plus raide, il fallut laisser le cheval souffler. Comme le conducteur était descendu, Madame Deschamps sortit de sa torpeur et dit à Stéphane:
« Mais tu devrais en faire autant, cela soulagerait la bête, et je pourrais m'étendre, c'est si fatigant de rester dans la même position. »
Il obéit, suivit de loin la voiture, coupant les lacets par les sentiers. Il se sentait très seul à marcher ainsi sous le soleil. Tout autour, les champs dévalaient avec une furie de pente, surchargée de gravier et de terre creuse. Aucun arbre, mais de loin en loin, des espaces incultes, des genièvres hérissées d'aiguilles. Dans les angles, parfois, protégés par des barrières, des figuiers rabougris tendaient au vent leurs feuilles noires, et à mesure qu'on s'élevait sous le ciel bleuâtre où flottaient des vapeurs transparentes, s'apercevait à l'infini une ondulation de collines rougeaudes mouchetées de millage. Une immense végétation latente semblait dormir dessous. On eût dit la terre s'étalant dans une ivresse de soleil, gonflée pour recevoir plus de rayons. En même temps, le vent commençait à souffler en bise, ce vent d'autant dont au bas on n'avait essuyé que des falaises rafales perdues. Il passait, faisant vibrer le sol avec un sifflement qui montait des grammes sourdes aux sonorités suraiguës. Sous ces coups de trombe, la voiture oscillait, le cheval soufflait, n'avançant plus, Et Stéphane entendait alors l'homme claquant du fouet et qui répétait à tue-tête « Mignonne, Presque au sommet de la côte, il s'arrêta et regarda derrière lui, ébloui. C'était donc cela, la campagne. Cette chose dont les livres seuls lui avaient dit l'existence, et par opposition les verdures artificielles des villes lui revinrent à la pensée. Le grand rond de Toulouse, le jardin des plantes, les arbustes peignés, taillés, la vue limitée à des suites de maisons criardes, sans montagne ni air. Il hochait la tête dans une extase, disant « Mon Dieu, mais je n'aurais jamais cru !» Mais de la voiture, on l'appela « Hé, là-bas, que faites-vous donc ?» Alors il prit sa course, essoufflé par la pente, et il gardait au fond des yeux l'impression de cette immensité, n'imaginant rien de plus beau que ces déroulements de vallons calcinés et se promettant de revenir là, d'y rester très longtemps. La nature l'avait prise à l'âme, et devant ce silence des êtres si pareil au sien, un afflux de bonheur printanier lui était venu. Et quand il arriva, sa mère lui cria d'un ton rude : « Mais perds-tu la tête à nous faire attendre ici, comme s'il faisait bon avec un pareil vent ? » Il voulut s'excuser et lui demander pardon, mais il balbutia, stupéfait du décor féerique qui tout à coup apparaissait. « Mais voyez donc, ma mère, mais voyez donc !» À leurs pieds, enfin, l'autre versant s'étalait. La plaine de Belle-Pêche, feuillée, ombreuse, sillonnée de rivières qui la plaquaient de lames d'argent, fouillie de prairies, de remeilles assandries, de saulaies fourmillantes. Au-dessus, les peupliers miroitants sous la lumière avaient un balancement de longs panaches, et c'était un contraste merveilleux avec ce qu'ils avaient traversé tout à l'heure, quelque chose comme le printemps après l'hiver. Au loin, des buées se fondaient entraînées à Longhi, les toitures des maisons pointillant de rouge, les massifs semblaient des nids dans les branches. Les sols, reflétant les rayons, paraissaient des bijoux d'or posés sur du velours, et une harmonie s'en élevait, une grande joie de chants d'oiseaux, des murmures d'arbres, des frissonnements d'eau, le halètement de la terre rafraîchie et rayonnante, souverainement paisible et belle sous l'étreinte du soleil. « Mais voyez donc, ma mère !» s'écria-t-il de nouveau. Madame Deschamps l'interrompit. « Mais dépêche-toi, nous avons assez le temps de regarder cela quand nous y serons. » Il eut un moment d'étonnement de la trouver si indifférente à ces choses, mais il ne s'y arrêta point et remonta dans la voiture. On repartit au trot. Le grincement des essieux avait une allure joyeuse. Le cheval reposé rythmait les sonnailles, les freins serrés aux roues bruissaient gaiement. Le vieux lui-même, comme saisi de l'allégresse, devint causeur. « Regardez là-bas, Belle-Pêche, à côté, deux pointes de tourelles, c'est là, chez les Ferrabus. » Stéphane et sa mère se penchèrent, apercevant une maison à toiture plate, à faux air de château. Et il continuait, promenant sa main sur l'horizon, « Plus loin, longez le Vic-Siège, vous voyez bien, c'est la Visale. » L'endroit où nous allons, Vic est derrière, oh, presque à la jointure de l'Hilaire de la Vie-Siège. » Mais Stéphane l'entendit seul. Les yeux de Madame Deschantres demeuraient obstinément fixés sur la maison Ferramus. En même temps, une impatience fébrile l'avait saisie. On eût dit qu'elle approchait d'un but depuis longtemps désiré et qu'elle craignit de le manquer. « reprit le conducteur. La voiture roulait, cahotée, soulevant une nuée de poussière, et bientôt ils retrouvèrent une grande route. Alors on croisa d'autres carrioles, des tilburies, des charrettes traînées par des vaches, qui, les filets pendant sur leurs mufles, se laissaient dévorer par les mouches. Chaque fois, le vieux disait bonjour, s'accompagnant de gestes avec son fouet. « Comment va, Pitchoun ?» « Eh, là-bas, Jean-Petit, à des chasses, Mariano !» Cela avait un air de pays de connaissance, d'accueillement empressé. Il semblait que la gaieté du sol se déversât sur les êtres, et que sous les massifs des branches, les paroles d'amour puissent seules monter. Comme ils étaient loin, maintenant, ces serments de l'âme dont Stéphane avait souffert depuis la veille. Le vent les avait balayés de ses caresses tièdes, n'en laissant pas même la meurtrissure. Mu par une impulsion de joie attendrie, il embrassa sa mère. « Oh, maman, mais que tu as bien fait de nous amener ici !» Elle se dégagea d'un air d'ennui. « Allez, laisse-moi donc, c'est pas dans une voiture qu'on fait de ces choses-là. » Il rit, et répétant ce nom de maman, qu'il prononçait si rarement, le résumé de sa tendresse, « Bah, mais je t'aime en voiture autant qu'autre part. » Elle le regarda et, souriant enfin, répondit, « Allons, sois sage, nous voici chez la cousine. » Il se retourna, là-bas, devant une porte cochère ouverte au large, une petite forme s'agitait avec des signaux, et ils entendaient la voix de Madame Ferramus. « Bonjour, bonjour, vous êtes en avance. Reçu, n'est-ce pas, cousin? Oh, j'avais bien pensé. On vous embrassera ce soir quand vous viendrez, car vous dînez ici. Nous avons une dinde superbe pour l'occasion. » Toujours le même papotage vulgaire qu'elle leur avait servi à Toulouse. Mais là, sous le soleil qui la baignait, ses joues ne semblaient plus trop rouges, sa paysannerie se fondait dans le décor des choses. On n'était plus choqué de l'entendre énoncer ainsi la dinde superbe pour l'occasion, tandis que derrière elle, des poules picotaient, becquetaient, gloussaient, et sous son chapeau de paille, avec ses manches relevées, le tablier noué à l'angle, elle respirait un tel air de jeunesse et de forte santé que Stéphane en demeura stupéfait. Était-ce bien elle qu'ils avaient reçue le jeudi précédent, elle qui lui avait laissé un tel souvenir de laideur banale? Sous la pleine lumière, son rire riait si franchement, dans un écart des lèvres, montrant toutes les dents, jusqu'à son accent méridional et chantonnant qui semblait une caresse d'enfant gâté. « C'est dit, dès que vous serez installé, nous vous attendrons. Vous verrez la maison, le parc. » Mais Madame des Chantres cherchait autour d'elle. « Votre mari n'est donc pas là ? Oh, mon mari, m'en parlez pas. Je l'ai pas vu aujourd'hui. Il est si occupé maintenant. Ce sera pour ce soir. » Oui, ce soir, il faut l'espérer. » La voiture repartit plus lentement et traversa Bellepêche, roulant sur les pavés pointus, avec un vacarme éclatant. Les gens venaient aux portes, intrigués par la vue des visages nouveaux et des mâles qui, derrière l'attelage, sautaient dans leur réseau de cordes. Sous les couverts, comme il y avait marché, on s'ameuta, et derrière leur passage, ils laissèrent une traînée de bavardages étonnés. Puis la route reprit, entre des haies poussées en fourrés, surplombées par des bouveriers ou des frênes à feuilles allongées. Enfouie dans son lit profond, la vic-siège roulait sur le côté et l'on en percevait seulement à des bruits de remous, des murmures de cascades, une fraîcheur d'air qui tout autour se répandait. Ils arrivaient. Bercé par la cadence de la marche, Stéphane goûtait un délassement vague, comme au sortir d'un long repos assainissant. « Nous y sommes !» dit le conducteur en tournant brusquement dans une cour. C'était une maison, moitié chaumière, moitié château, avec les granges attenant au logis, les écuries à côté de la porte d'entrée, le foin débordant des lucarnes ouvertes du grenier. Point de jardin, mais des arbres autour. Sur un terrain un peu plus haut était le sol cerné de meules en forme de navire, et une odeur d'étable courait en même temps que cette saveur indéfinissable des demeures de campagne, sentant à la fois le printemps des plantes et l'abandon. Un troupeau d'oies se sauva devant l'équipage avec un déploiement d'ailes. Un chien de troupeau à poils fauves aboya furieusement.
un effroi dans la basse-cour y répondit. Tout un tumulte de cris discordants partait de recoins invisibles. C'était la ferme chantant la bienvenue. Et leur voyage semblait finir ainsi par une fête de soleil, de verdure, de chansons. On eût dit la poésie de la terre courue pour les fêter et un enchantement d'espérance ineffable s'élevant de partout, tant les misères de nos vies humaines auraient paru faire tache sur la joie universelle. Comme ils s'arrêtaient, un homme parut au seuil de la maison et vint à leur rencontre. À sa vue, Madame Deschantres eut un brusque mouvement à demi réprimé. « Savez-vous que vous êtes en avance ?» dit-il d'une voix grasseyante en saluant. Elle eut un léger signe de tête pour réponse et souriant d'un étrange sourire contenu. « Allô, docteur » fit-elle gigrement. « C'est beau de reconnaître encore une vieille femme qu'on n'a pas vue depuis des siècles. » Il lui prit la main pour l'aider à descendre, répliquant à mi-voix. Mais c'est vous qui l'avez voulu, n'est-il point vrai ? Mais elle parut n'avoir pas entendu, et se retournant vers Stéphane. Ton cousin, Marc Ferramus, dit-elle. Vous vous êtes déjà connu, il y a très longtemps. L'installation s'effectua rapidement. M. Ferramus, avec un air d'empressement un peu trop marqué, fit monter les malles dans les appartements et montra le local, une chambre au premier en face d'une porte de grenier où du blé séchait. Au-dessus, une mansarde blanchie à la chaux où demeurerait Stéphane, puis au rez-de-chaussée, la salle à manger et la cuisine. Depuis la veille, on avait ouvert les fenêtres, mais on y respirait encore le renfermé, l'odeur de buanderie des linges fraîchement sortis de l'armoire et servant rarement. Pour meubles, des lits de perse rouge à double matelas de plumes qui semblaient des monuments inaccessibles, des fauteuils de paille, des chaises à treillis, des carpettes de rencontre, mobilier qui fut trouvé très insuffisant. Après son inspection, M. Ferramus les quitta, descendit l'escalier de bois et partit en sifflant d'un air satisfait. Il était grand, avec une musculature d'athlète, ayant la tournure épaisse, sans élégance ni finesse. Sur les méplats des joues, une teinte bleue de barbe noire, fraîchement rasée, lui donnait l'air glabre, et quand il s'animait, sa chair molle avait des tremblotements désagréables à l'œil. De loin, tandis que Stéphane examinait son dandinement de propriétaire satisfait de marcher dans son domaine, sa carrure trop forte, ses vêtements mal ajustés, il lui sembla vulgaire comme Sidonie, propre seulement à quelque existence végétante ou animale. Madame Deschantres le regardait aussi. « Un beau cavalier, n'est-ce pas ? » dit-elle à son fils d'un ton sérieux. Et comme il ne répondait pas, « Il est très aimable, » reprit-elle. En dépit de sa taille de barbe bleue, sois gentil avec lui. Il répliqua en riant, « Mais soyez tranquille, maman. » La gaieté des choses de la terre lui donnait un appétit de bonheur. C'était l'éveil d'un être nouveau au fond de lui, une échappée merveilleuse et neuve livrée à sa jeunesse, l'été dans son âme comme dans les champs, et en défaisant les mâles, les objets rapportés de là-bas, lui semblèrent tout à fait ternes. Vieilli, n'étant plus entrevu dans la pénombre des pièces à lourds rideaux, mais sous l'éclairement cru de la chambre de ferme où les rayons entraient librement par les carreaux des mousselines. Quand tout fut terminé, Madame Deschantres prit son bras et ils partirent à pied pour Bellepêche, côtoyant les bords de la route où l'ombre tombait en s'allongeant. Madame Deschantres aussi avait abandonné l'air de préoccupation maussade gardé depuis leur départ. Elle eut un de ces accès de tendresse qui parfois la prenait avec son fils et le serrant contre elle,
Oh, je suis fière maintenant, dit-elle avec mon bachelier. Oh, c'est ton père qui serait content.
Oui, s'il était ici, comme il serait heureux, répondit-il.
Et elle répéta plusieurs fois, mon bachelier, mon petit bachelier chéri.
Quand nous reviendrons à Toulouse, reprit-elle, nous trouverons quelque chose pour toi, une position qui te plaise, où ta mère pourra rester près de toi, pour bien dorloter sur Stéphane, n'est-ce pas, Fifi ?
Fifi, c'était l'abréviation de Stéphane, son nom de baby qu'elle lui redonnait encore aux heures d'effusion, en dépit du contraste entre ce nom d'oisillon et la tournure de ce grand dadais épeuré. Elle discutait avec lui ce qu'il pourrait choisir, la pharmacie ou l'administration, les télégraphes ou l'enregistrement, la banque ou la société générale, quand, à moitié route, il s'entendit rappeler par Sidonie venu à leur rencontre.
Mais Dieu merci, eh bien, vous avez mis du temps à vous organiser, j'ai cru que jamais vous viendriez.
Alors, tous trois continuèrent, marchant de front, la poussière se soulevant en nuages autour des robes. Il était 5 heures. Derrière Saint-Cernin, un grand voile rouge montait, et un calme profond déjà s'étendait sur les arbres, sur les haies, sur les luzernes moirées de brise, quelque chose comme un alanguissement de jouissance irrésistible et doux. Il sembla que cette journée dût être l'exacte contrepartie de celle passée à Toulouse par Sidonie. La conversation fut tout de suite un babillage. Madame Deschantres était devenue causeuse, souriante, avait les traits éclairés par une satisfaction secrète. En passant devant chaque maison, Sidonie la mettait au courant des potins, des démêlés avec le juge de paix, du scandale du notaire, de l'aventure de ceci, des fortunes, des parentés, des associations ferventes, des cléricaux, des fonctionnaires, des ambitions, des concurrences porte à porte. Comme si, sans cette introduction dans l'existence intime, sans cette accumulation formidable de choses insignifiantes et minuscules, la vie de ce pays eût paru un incompréhensible rébus. Par moments, elle hâtait le pas, s'interrompant. « Oh, dépêchons-nous, pour que je puisse vous montrer le parc avant la tombée de la nuit !» En prononçant ce mot « le parc », sa voix se gonflait imperceptiblement. Une emphase involontaire se glissait dans le roulement de l'air. On sentait d'instinct que ce parc devait être la réalisation d'une grosse ambition, un de ces désirs tenaces que les années ne peuvent entamer. Même elle ne put s'empêcher d'en parler plus longuement et d'en compter l'acquisition. C'était tout récent, 4 mois à peine. Son mari l'avait eu de Parisien, obligé par la faillite de liquider à tout prix. Il y avait 10 hectares de bois, 2 pièces d'eau, un pigeonnier et la maison. Le tout pour 35 000 francs, bref, une affaire d'or. Seulement, vous comprenez bien que nous n'avons pas laissé le parc et le château comme ils étaient. C'est beau pour de grosses bourses. Nous autres, nous ne pouvions pas. Alors, on a coupé une partie des arbres et planté des Américains qui viennent très bien. Rien que la vente des falaises futaies a presque soldé le paiement.
Comment, vous avez arraché les futaies?
Mais oui, c'est presque aussi joli. Allez, au moins, on a de la vue. Madame Deschantres eut un sourire à peine réprimé à cette naïveté donnée pour excuse d'un massacre. Et c'était vrai. Dès l'entrée dans le domaine Ferramus, le château, comme on disait, on avait de la vue maintenant, une vue de collines dénudées, labourées, faisant une tache criarde sur la verdure universelle. Par endroits seulement, des arbres isolés, dressaient leurs silhouettes solitaires, reproches vivants, et malgré l'ensablement des allées qu'on avait respectées, La véranda courant encore le long de la façade au-dessus des portes à plein centre, malgré les tronçons de bosquets conservés çà et là, on sentait tout de suite l'embourgeoisement de la terre, le faste économique, la demeure dégénérée en commun, la cour d'honneur en basse-cour. Les poules avançaient jusque dans les corridors. Des casseroles traînaient par terre, remplies encore de la pâtée pour les bêtes. Les lauriers roses, retenus par des cercles de tonneaux, étaient plantés dans des comportes. Dans la vasque de pierre qui se dressait au centre du parterre, rongée par la mousse, à la place du phénix mort, un géranium double étalait ses pompons rouges crus, et jusqu'au buisson de roses, sur les bords de l'avenue d'entrée, qui avaient jeté au hasard leurs branches défleuries, comme s'ils eussent voulu retourner en églantier. « Voilà chez nous, maintenant !» fit Sidonie, avec un accent de triomphe. D'un geste circulaire, elle parut dessiner sur l'horizon la limite serpente séparant le domaine Feramus du reste du pays. « N'est-ce pas que c'est bien ?»« Oh, tout à fait charmant !»« Oui, au commencement de mon mariage, nous habitions la Visa, ce que nous avons loué. » C'était humide, triste, isolé. Oh, je me demande comment on peut y vivre. Du reste, vous verrez bien, puisque vous y êtes. Cet aveu mit en gaieté Madame Deschantes. Eh bien, moi qui venais m'y refaire la santé, vous m'avez fait bien tomber. Bon, est-ce que j'aurais dit une bêtise? Oh, je suis toujours la même, aussi étourdie. Cela désole Marc. Vous ne l'avez pas encore vu, n'est-ce pas? « Si, si, dit Stéphane, il nous attendait là-bas. »« C'est-à-dire que nous l'y avons rencontré par hasard, » reprit vivement Madame Deschantes. « Il a beaucoup d'occupations. »« Oh oui, beaucoup trop !» Un brusque silence se fit tout à coup. Le ton de voix de Madame Deschantes avait frappé Sidonie. Il y eut un moment d'embarras inavoué entre trois, et mais presque aussitôt Sidonie coupa court. Et marchant en avant, « Venez, venez, » reprit-elle, « avant que le jour ne tombe, nous visiterons le parc. Si nous tardons, il fera trop frais et vous prendrez mal. » « Mais volontiers. » Alors, très lentement, ils suivirent une des allées qui descendait vers le bas avec des sinuosités d'écriture anglaise. Il ne fallut rien laisser passer. Ni les massifs de laurier, ni les magnolias, dont la glaçure des feuilles disparaissait sous la poussière, ni les sapins, ni les cèdres, car dans le défrichement, par une vanité de possesseur, pour laisser la trace indéniable des splendeurs effacées, ils avaient conservé un spécimen de chaque arbuste rare. En deux ou trois endroits seulement, où la terre avait été reconnue moins bonne ou trop en pente, des bosquets étaient restés, croisant leurs branches au-dessus du passage. À 6 heures du soir, une senteur rafraîchie dormait sous leur ombre, et quand on y passait, jetait sur les épaules un manteau de froid humide. Dans le vallon, comme on l'avait baptisé, ils trouvèrent l'étang, une flaque verte en forme de poire où l'eau avait disparu sous les joncs, poussés en forêt dans une rage de reproduction. Au travers, le chant mélancolique des rainettes s'élevait semblable à un écho répercuté indéfiniment, et des grincements de grillons commençaient à sourdre dans l'herbe comme une réponse à ces appels. La terre s'endormait, bercée par la monotonie des chants d'insectes, et sous l'éclairement pâle de l'horizon, les teintes virant au noir avaient des miroitements de velours. « Oui, comme vous avez eu raison de ne pas le combler, » dit Madame Deschantres, involontairement saisie. « Oui, oui, » fit Sidonie, « oh, la fin de l'hiver dernier, rien que la récolte des jours a rapporté 180 francs, c'est même dommage qu'on ne puisse pas l'agrandir. » C'était tout ce que lui disait cette mare, toujours vue, rien d'autre que les bénéfices produit ou le contentement d'ambitions satisfaites. À force de vivre à côté de ces choses, son âme s'est déformée, et elle ne pouvait plus en recevoir de commotion. Pourtant, une telle mélancolie en montait qu'il fallut, pour en secouer l'impression, l'éclat de la lampe dans la salle à manger. Ils y allèrent directement, le salon demeurant sous les housses, barricadé contre la poussière et l'usure. Marc les y attendait. « Eh bien, cette promenade, » fit-il en les voyant, « nous rapportez-vous de l'appétit ?» Il eut un gros rire et, frappant ses mains l'une contre l'autre avec un bruit sonore, comme pour chanter l'allali de sa robuste santé. « Bon, d'abord, à partir de 6 heures, je crève toujours de faim. Est-ce que Baptistine va nous faire attendre longtemps ?» Sidonie eut un haussement d'épaule. « Mais Baptistine fait ce qu'elle veut, ça ne me regarde pas. » Mais à l'entendre prononcer sa phrase, il semblait que ce nom de Baptistine lui produisit le grattement d'un cilice. On s'assit autour de la table pour passer le temps. Madame Deschantres, à côté du médecin, en face Sidonie, puis Stéphane. Une curieuse salle, en vérité, avec ses portes à deux battants, en plein bois et à filets dorés, sa haute cheminée de bronze, où des amours jouaient dans des niches, sa nudité de meubles, ses chaises de paille, sa suspension achetée dans un bazar, ses gravures coloriées où un minet jouait diversement avec un chapeau et un polichinelle. Une odeur vague de cuisine y arrivait, faite de senteurs d'oignons et de graisse roussie. Maintenant que l'excitation du grand air était passée, Madame Deschartres et Stéphane éprouvaient une extrême lassitude dans tous leurs membres, une impression douce d'épuisement et un bonheur à se sentir assis sans parler. Tout à coup, la porte s'ouvrit. Une vieille entra, la soupière entre les bras, la déposa sur la table, puis salua d'un air oblique, ployant son échine maigre, les mains l'une dans l'autre et collées contre son ombre de poitrine. « Notre tante Baptistine Barthez, » fit le médecin en la montrant. « Vous allez bien, madame ?» dit-elle en reployant son échine pour répondre au salut étonné de Madame Deschantres. « Enchantée de vous connaître !» Et sans même écouter ce qu'on lui répondait, elle se plaça au bout de la table avec une attitude de domestique espion, glissant des regards obliques sur les visages et les assiettes. Tout était long et sec en elle. Elle avait les joues jaunies comme du parchemin sale, la bouche sans lèvres et sans cesse entr'ouverte ou plissée pour une observation méchante, les cheveux jaunes aussi, cachant les oreilles sur leurs bandeaux effilés, et à la voir ainsi silencieuse, épiante, l'idée venait tout de suite qu'elle devait jouer un rôle actif dans le ménage Ferramus, la partie toute puissante de vigilance malveillante. Au reste, personne ne semblait faire attention à elle. Tout le long du repas, qui presque aussitôt s'était animé, ce fut cette même mise à l'écart apparente. Sidonie ne lui parlait qu'au moment de la servir. « Oh, voulez-vous encore, Baptistine ? Ou bien, avez-vous surveillé la dinde, Baptistine ?» Ce nom de Baptistine revenait à intervalles égaux, comme une litanie perpétuelle et énervante. Le docteur s'égaya, jasant de Paris, contant de vieilles histoires à mots couverts et buvant ferme. Il avait monté une bouteille de vin de la Visate, sec à déchirer la langue, mais qu'on dut boire dans des petits verres en sa qualité de vin de « chez moi ». À la première tournée, on crinqua à la ronde, en campagnard, la serviette pendue au cou, choquant bruyamment les verres, tandis qu'au milieu, sur un plat à fleurs, la fameuse dinde fumait, embaumant l'atmosphère d'une odeur de chair rôtie.
Je suis bien sûr, ma cousine, que vous n'en avez pas vu de pareil à Toulouse, dit Sidonie. Oh, elle vaudrait bien 12 francs. Monsieur Séramus eut aussi un hochement de tête. Oh, elle fleure bon, n'est-ce pas? Et c'était une curieuse chose, cet accord de leurs deux pensées à propos de cette gloutonnerie de viande. Te souviens-tu, Sidonie, qu'à notre dîner de noces, ton père en fit servir une qui était moins grosse que celle-là, parole d'honneur? Oui, une façon pratique de se rappeler sa lune de miel, dit Madame Deschantres avec un sourire méchant. Oh, notre lune de miel, cousine, vous savez bien que cette phase-là, comme les autres, n'a jamais pu durer plus de 6 jours. Vraiment, même celle-là? Il fallait répondre quand Sidonie l'interrompit. Ne le croyez pas. Allez, la nôtre dure toujours. Pour la première fois, la voix de Baptistine s'éleva. Une voix qui traînait dans le mode mineur, traversée par de légers sifflements.
Oh, en fait d'une lune de miel, j'ai appris un mariage.
Quel mariage? Oh, cela vous intéressera certainement pas, continua-t-elle avec un dodelinement de la tête.
Mais enfin, je vous le dis tout de même. La Suzanne Mercier, elle a fini par agripper un homme, un professeur, dont le nom se termine en hac ou en art, je sais plus.
Sidonie était devenue blême. « Mais qu'est-ce que Suzanne Mercier ?» demanda Madame Deschantres.
« Oh, une fille !» répondit Sidonie d'un ton bref.
Et regardant son mari avec une colère dans les yeux, elle ajouta
« Mais une fois pour toutes, qu'on me laisse tranquille avec ces histoires-là. Je ne veux pas qu'on en parle chez moi. Allez, qu'est-ce que nous disions avant cela ?»
Marc était resté silencieux, la bouche barrée par un sourire niais. Au bout d'une seconde de silence, il reprit d'un ton indifférent.
« Mais au fait, cela ne vous regarde pas. Chacun est libre d'agir à sa guise, et d'un trait, il avala le contenu de son verre. »
Stéphane, lui, en entendant le nom de la fiancée de M. Mouillac, avait eu le cœur comprimé par une angoisse, ne comprenant pas au juste la colère de Sidonie, ni cette épithète de fille qu'elle avait lâchée.
« Mais il est pâle, ce garçon-là, » dit le médecin d'un ton paterne. « Oh, il faudra ranimer ses couleurs, de l'exercice, de l'eau froide. Aimez-vous les bains froids ?»«
Oui, beaucoup. »«
Allez, dans la vie cherche, il y a de beaux endroits, des endroits où l'on dirait d'une baignoire, tant elle est tranquille. »«
Mais ne lui donne donc pas de ses conseils, » répliqua Sidonie, encore sous le coup de son mécontentement. « Tu sais bien que la vie que siège est dangereuse. »«
Mais non, vous n'avez rien à craindre. Gardez-vous seulement d'approcher par trop de l'air, c'est à cause du courant et des tourbillons. »«
Oh, Stéphane est très prudent, » conclut gaiement Madame Deschantres. « Du reste, si un bachelier ne l'était pas. » Et la conversation continua, banale, éparpillée. Ce dernier mot avait suffi à éclairer Stéphane. À force d'être replié sur lui-même, il en était arrivé à percevoir ces nuances d'affection plus vivement que les effusions violentes, y sentant une vigilance d'amour qu'il ne retrouvait point dans les autres. Après le dîner, comme il n'était resté près de Sidonie, il ne put s'empêcher de lui dire tout à coup
« N'est-ce pas que ma mère est bonne ?»«
Ah, vous vous trouvez ?» répondit-elle, rêveuse. Chez elle, au contraire, l'impression avait été toute différente de celle de Toulouse. La froide gaieté de Madame Deschantres lui avait paru fausse à la façon des eaux dormantes sur lesquelles des plantes étalent leurs ombelles violacées. Justement, la tante Baptistine se trouvait derrière elle, absorbée en apparence par le déblaiement de la table.
« Madame Deschantres est très bonne pour Marc, surtout. Oh, tout à fait bonne !»
fit-elle entre ses dents. Et sans cesser d'aider au pliage de la nappe, elle jeta un coup d'œil vers le jardin où le docteur et Madame Deschantres venaient de se diriger.
Eh bien, tant mieux, dit Sidonie. J'aime pas que les bruits de famille subsistent. Encore moins ceux qui épiloguent à tout bout de champ et à propos de rien. Venez-vous, cousin ? Et prenant brusquement le bras de Stéphane, elle l'entraîna. Ils se retrouvèrent en pleine nuit. Ils n'avaient pas encore été seuls, ainsi l'un près de l'autre, depuis leur montée des allées Lafayette vers Malabio. Mais cette fois, Stéphane éprouvait une quiétude heureuse, un sommeil d'âme, et maintenant, dans la fraîcheur douce de l'air qui les caressait, des souvenirs joyeux lui revenaient, heures de sa vie dont la trace était restée lumineuse, évoquée par le contentement présent. Ce n'était point l'approche de Sidonie qui le rendait ainsi, mais plutôt la souveraine harmonie des choses qui l'entouraient. La concordance avec le calme de ses pensées, de cette soirée radieusement paisible, de ce ciel piqué de scintillements d'étoiles, des silhouettes d'horizon se perdant dans les replis vagues du clair-obscur. « Sidonie, tu sais que je les accompagne ?» fit dans l'ombre la voix du docteur. « Moi aussi, nous irons ensemble, c'est entendu. » Et tout le long de ce retour vers la Visa, ils restèrent presque silencieux. Sidonie, un peu préoccupée par le bruit étouffé de la conversation de son mari, qui, aux côtés de Madame Deschantres, semblait devenu étrangement causeur, et Stéphane, tout entier, à sa rêverie heureuse. Il y a ainsi dans la vie des journées ineffables qui la font aimer, remplies de rien, de niaiseries, d'heures comme les heures de la veille et comme celles du lendemain, et où le cœur, cependant, puise une intuition des délices d'un monde en dehors d'une autre. De cette soirée où rien d'extraordinaire n'était survenu, où lui, cet affamé d'affection, n'avait eu que les tendresses distraites de sa mère, il revenait harassé mais ensoleillé, ne songeant plus à l'incident de Suzanne Mercier, qui un instant l'avait angoissé, ayant dans l'âme quelque chose de cette fête de la nature, qui à leur arrivée les avait accueillis, et les adieux le laissèrent dans la même extase. Celui de Sidonie avec un serrement de main un peu brusque, celui du médecin hâtif et plein d'une satisfaction mal étouffée. « Ah ! » s'écria-t-il en se retournant avec sa mère. « Oh, comme il faisait bon ce soir !»« Enfant !» répondit-elle avec un sourire d'énigme, « va te reposer. C'est moi qui cette fois irai te dire bonsoir dans ton lit. »« Quoi, cela aussi ?» Tous les bonheurs ensemble, car ces bonsoirs de sa mère étaient une rareté, une fête délicieuse, dont l'impression le ravissait encore de longues journées après qu'elle était passée. Il éprouvait une légèreté d'âme, comme s'il n'avait plus eu de corps et se fût balancé dans le vide sans peser. Quand il fermait les yeux, il croyait encore sentir le soleil mettre des baisers sur sa chair, et en recevant les derniers embrassements de sa mère, des embrassements hachés, multipliés, tant elle couvrait son front avec une sorte d'emportement, il en trouvait une saveur inconnue et troublante, comme à des brûlures ou des caresses jamais encore goûtées.